meurt de maladies et de causes qui ailleurs les personnes seraient sauvées, ça c'est clair. Donc c'est un ensemble, ressources humaines, infrastructures, formation et vision, monitoring, sanctions.
Des sanctions contre les mauvais agents.
Quand les gens ne font pas le travail pour lequel ils sont payés, sanctions, tout ça mis ensemble fait que si tout ça était amélioré, je suis sûre que j'aurais un mieux dans la mortalité de notre population.
La Fondation a mis en place un grand laboratoire. Quel est l'impact de ce laboratoire au sein de la population et dans le milieu scientifique africain?
Au sein de la population, je ne dirais pas que l'impact est visible pour le moment parce que nous formons par exemple des jeunes docteurs.
Former un docteur, ça demande beaucoup de temps. C'est un investissement à long terme.
La formation d'un docteur, c'est au minimum 3 ans, maximum 5 ans. Donc c'est un investissement sur le long terme. Et ensuite, il va travailler et là devient productif.
Combien de docteurs avez-vous déjà formé, si vous pouvez connaître le nombre ou de façon approximative?
Nous avons maintenant formé plus d'une dizaine de jeunes docteurs congolais qui sont déployés dans le pays. Et c'est un nouvel esprit que nous insufflons. Donc pour moi, je pense qu'on commencera à voir l'impact de la Fondation dans les 5-10 prochaines années. Oui, on se rendra compte, tiens, j'ai été formé à un moment donné ou à un autre par la Fondation congolaise pour la recherche médicale et j'agis de telle manière parce que c'est ça ma formation.
Quel est le profit des personnes que vous formez? Seulement des scientifiques?
Nous formons pas seulement scientifiquement, mais aussi moralement, en faisant comprendre quelle est notre responsabilité. C'est-à-dire que les moyens que nous mettons sur la tête de nos étudiants, on leur dit que c'est pas pour leurs beaux yeux, c'est pour pouvoir rendre ça, pas à la fondation, mais c'est rendre cet investissement au pays. Et ça, ils le comprennent bien. Et je pense que quand nous aurons comme ça une centaine, 200, plusieurs formés avec cet esprit, l'impact alors sera visible, surtout qu'ils sont compétitifs, ils seront capables d'aller chercher l'argent. Là, moi, je suis, entre guillemets, seule dans cet exercice. Mais imaginons qu'il y ait une centaine comme ça. Bah, après, on aurait beaucoup, beaucoup de possibilités dans le pays.
Vous faites aussi un travail de sensibilisation sur les filières scientifiques. Qu'est-ce que ça donne comme résultat?
Déjà, avec notre programme Femmes et Sciences, la visibilité que nous mettons sur la recherche, l'impact est déjà là. Beaucoup de jeunes gens sont de plus en plus conscients et veulent se lancer dans la recherche. Donc là, déjà, il y a un impact dans l'intérêt, dans la volonté de vouloir s'engager dans la recherche. Donc je pense que là, nous voyons une courbe qui croît. On a une progression vraiment importante des demandes, même on ne peut pas les satisfaire toutes, mais on voit les demandes, on voit l'intérêt même des parents qui viennent poser des questions, qui veulent qu'on conseille leurs enfants. Donc l'impact est là.
C'est très intéressant que les gens viennent vous voir maintenant, mais du coup, ça veut dire qu'avant, ce n'était pas comme ça.
Il y avait peu de jeunes intéressés à la recherche biomédicale, et pas qu'à la recherche biomédicale, à la recherche tout court, parce que déjà, à l'image du chercheur au Congo, c'est un pauvre le chercheur. Il fait pitié le chercheur au Congo. Il a un salaire de misère. Il fait plus de 10 ans d'études, mais il a un salaire de misère. Personne n'a envie de faire 10 ans d'études et ressembler à un miséreux. Alors qu'un médecin, pour le même nombre d'années, le métier est valorisé. Un scientifique, pour le même nombre d'années, voire plus, c'est un métier peu valorisé. Il n'a pas les moyens, on ne lui donne pas les moyens de travailler, on ne lui donne pas le salaire en reconnaissance de sa formation. Pensez-vous que cela donne envie? Bien sûr que non. Donc il fallait donner une image positive de ce métier et c'est ce que la Fondation congolaise a essayé de faire.
Dans la pratique, comment se passe cette valorisation? Comment vous y prenez-vous pour valoriser les filières scientifiques ou la recherche médicale?
En donnant à ceux qui travaillent, en tout cas à la Fondation, un salaire décent qui leur permette de vivre correctement et de montrer qu'on peut s'épanouir dans la recherche au Congo. Mais pour ça, il faut savoir aller chercher ces financements en attendant que le pays puisse mettre sur la table les moyens que l'on met réellement sur la table d'un chercheur pour qu'il réponde aux besoins du pays. Il fallait redonner une image positive. Bon, moi, je suis venue de l'extérieur avec cette image positive parce qu'on ne s'engage pas dans la recherche pour être milliardaire.
Ça serait donc par passion?
Oui, il faut aller dans la recherche privée, dans l'industrie pharmaceutique. Mais on ne va pas à l'université ou dans une institution de recherche pour être riche, non. C'est parce qu'on est passionné par la recherche. Mais on peut être passionné, mais pour autant, on veut pouvoir nourrir sa famille. On veut pouvoir vivre décemment de son travail. Donc ça, c'était important de montrer que c'était possible de vivre décemment au Congo en étant scientifique. Mais il faut que le pays puisse encourager correctement ces scientifiques.
Comment pourrait-on encourager les jeunes à embrasser des domaines comme la recherche médicale?
Pour les encourager correctement, il faut qu'ils aient compris quel est le poids du chercheur. Parce que là, le chercheur était minimisé parce que je pense que nos autorités ne mesurent pas ou ne mesuraient pas l'importance du scientifique. Dans le monde entier, ailleurs, tous les pays industrialisés ont compris. La Chine a progressé très vite. Pourquoi? Mais parce qu'elle a su faire revenir tous ces scientifiques formés aux États-Unis. Aux États-Unis, vous savez bien que vous allez dans les laboratoires, les trois quarts, il y a beaucoup d'Asiatiques. Et ce sont eux qui tiennent les labos, c'est eux la connaissance. Si on sait faire revenir sa diaspora qui a une très bonne connaissance, mais cette diaspora va faire un bond dans le pays.
Et cela pourrait booster les progrès.
Et quand si on leur met les moyens d'utiliser ce qu'ils ont appris ailleurs, les progrès vont aller extrêmement vite. Les autres ont compris ça, donc il faut faire revenir les scientifiques congolais qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, pour qu'ils viennent appliquer ce qu'ils ont appris là-bas, ici.
Comment s'y prendre pour attirer ces scientifiques qui sont à l'extérieur?
Pour les attirer, il faut qu'ils puissent nourrir leur famille. Il faut qu'ils puissent vivre correctement. Sinon, personne ne viendra, bien entendu. Personne. Les gens, quand même, veulent vivre correctement. Ils n'ont pas fait 15 ans, 10 ans d'études pour vivre comme des mendiants. C'est pas possible. C'est pas possible.
Ça fait 10 ans, presque 11 ans, que la Fondation congolaise pour la recherche médicale existe. Quels sont vos projets d'avenir?
Les projets, c'est continuer, c'est augmenter. Nous mettons en place des équipes multidisciplinaires. Par exemple, on a formé un bioinformaticien. C'est le premier bioinformaticien formé. Nous voulons que lui puisse former plusieurs bioinformaticiens, plusieurs qui aient beaucoup de biostatisticiens en recherche biomédicale et en sciences humaines. Donc, on veut que dans chaque discipline, il y ait une pépinière. Ça, c'est notre vision. Maintenant, au niveau de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, nous avons maintenant un centre de recherche sur les maladies infectieuses qui est soutenu par la Fondation Mérieux.
La Fondation, elle a des partenaires qui la soutiennent financièrement?
De plus en plus de bailleurs de fonds internationaux qui voient que ce que nous faisons un travail de qualité, je voudrais que la Fondation devienne de plus en plus puissante, de plus en plus forte, qu'elle puisse mieux répondre aux besoins, mieux assister le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche, mieux l'appuyer pour pouvoir répondre aux besoins de santé de la population. Parce que, encore une fois, on ne peut pas tout attendre aussi du gouvernement. Quand on regarde la recherche en France, par exemple, que je connais bien, il y a le secteur privé et le secteur gouvernemental, le secteur public. Il faut que les deux marchent main dans la main. Il faut qu'au Congo, si on veut que ça fonctionne, il faut la même chose. Je ne vois pas pourquoi dans les pays dits développés, ils ont compris que le secteur public à lui seul ne peut pas s'en sortir et qu'au Congo, le secteur public serait champion et pourrait s'en sortir. Ce n'est pas vrai.
Professeur, quelle est alors votre vision?
Pour moi, la vision, c'est que la Fondation soit de plus en plus forte pour pouvoir jouer encore mieux son rôle, qu'il y ait un impact visible. Je voudrais qu'il y ait un impact visible sur la population, sur la santé de la population congolaise.
Merci beaucoup, professeur. Mais la recherche en général était un domaine plutôt dominé par les hommes. Comment appréciez-vous l'engagement des femmes dans le domaine de la recherche médicale, soit au Congo, soit en Afrique?
Dans la recherche scientifique, en Afrique, il y a environ 30% de femmes. Au Congo, on est à 10-13% selon l'UNESCO. Bon, c'est pas beaucoup, c'est très faible. On est parmi les derniers. Donc, l'engagement des femmes dans les sciences est encore faible. Il y a un effort, là aussi, les stéréotypes sur les femmes engagées dans les sciences sont négatifs et donc ne donnent pas l'envie aux femmes de s'engager. Et là aussi, il faut donc casser ces stéréotypes et la Fondation congolaise pour la recherche médicale s'y emploie.
Comment vous y prenez-vous?
en menant des campagnes de sensibilisation au sein de la population, dans les écoles, à l'université, à la télévision, à la radio. Déjà, moi, je suis une femme et je dirige la Fondation congolaise pour la recherche médicale. C'est la première fondation de ce type au Congo, bon, dirigée par une femme.
Un très bel exemple.
Je pense que j'ai montré qu'en tant que femme, j'ai pu, à titre personnel, montrer que j'étais une bonne scientifique. Donc, je montre par mon exemple que c'est possible pour une femme congolaise d'avoir du succès dans les sciences. Et donc ça, c'était important aussi de montrer cela parce qu'en Afrique, il y a un manque cruel de modèles auxquels les jeunes puissent s'identifier. Parce que quand on a 10, 12 ans, on a envie de ressembler à quelqu'un. Nous nous employons à essayer de mettre en lumière les femmes scientifiques pour donner envie aux jeunes filles, aux élèves, aux écolières de rêver de devenir des femmes scientifiques.
Merci beaucoup, professeur, d'avoir été notre invité pour cette émission.
Ben, c'est moi qui vous remercie pour cet entretien.
C'était l'interview que nous a accordé le professeur Francine Ntoumi, biologiste moléculaire. Le professeur Ntoumi est aussi présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale à Brazzaville au Congo. Elle forme également des étudiants et des personnels en recherche biomédicale. Maintenant, vous allez suivre Carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, c'est la course contre la montre pour produire des vaccins anti-Covid en Afrique. Et le docteur Amadou Sall, PDG de l'Institut Pasteur de Dakar, évoque les efforts de l'Institut dans la fabrication du vaccin anti-Covid. De plus, quels sont les meilleurs aliments pour la santé de votre cerveau? La réponse dans Conseils et Astuces. Enfin, une infirmière éthiopienne à Durban aide les gens à adopter un mode de vie plus sain. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Plus de 8 milliards de doses de vaccins anti-Covid ont été distribuées mondialement et seulement environ 3% ont été envoyés en Afrique, comme le rapporte l'OMS. Selon les observateurs, la pandémie du coronavirus a révélé de fortes inégalités en matière de vaccins entre les pays à revenus élevés et ceux à faible revenu. Des efforts sont actuellement en cours pour produire des vaccins anti-Covid sur le continent. Selon les centres africains de contrôle et de prévention des maladies, African CDC, environ 10 pays sont engagés dans le processus de fabrication de vaccins ou prévoient de le faire. Les principaux pays producteurs de vaccins sur le continent contre Covid sont l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Rwanda, l'Algérie et le Maroc. Partons au Sénégal, où une nouvelle initiative est en cours afin de rendre le continent plus autosuffisant en matière de vaccins. Annika Hammerschlag nous en parle de Dakar, la capitale du Sénégal. Récit Arzuma Compaoré.
Le Sénégal a administré ses premières doses au public en mars 2021, plusieurs mois après que les vaccins Covid-19 sont devenus disponibles en Occident. Les stocks se sont taris à plusieurs reprises au Sénégal et dans d'autres pays africains qui ont compté sur la communauté internationale pour obtenir ces vaccins. Aujourd'hui, seuls 11% des Africains sont vaccinés contre 64% aux États-Unis et 72% au Royaume-Uni. Mais les scientifiques veulent changer cela. L'Institut Pasteur de Dakar s'est associé à BioNTech pour produire une installation de production de ces vaccins à ARN messager.
La nécessité de s'assurer que nous avons le contrôle de notre approvisionnement est quelque chose qui est d'une importance critique en termes de sécurité sanitaire.
L'Afrique importe actuellement 99% de tous ses vaccins. La nouvelle installation devrait ouvrir plus tard cette année et produire 300 millions de vaccins Covid par an. L'Afrique du Sud a annoncé un partenariat similaire avec Moderna. L'Institut espère fabriquer des vaccins non seulement pour la prochaine pandémie, mais aussi pour les maladies endémiques comme la rougeole et la polio.
Effectivement, les standards sont de plus en plus élevés. Ça demande aussi en termes de compétences, en termes de ressources humaines, des compétences qui sont extrêmement élevées aussi.
Mais l'Institut Pasteur de Dakar produit déjà des vaccins contre la fièvre jaune. Les scientifiques y fabriquent des vaccins depuis des décennies.
L'Institut Pasteur a une très longue expérience dans la production des vaccins. Donc, vous savez que le vaccin contre la fièvre jaune a été développé ici et produit par l'Institut Pasteur et qui continue à le produire. Donc, ils ont une certaine expertise dans le domaine du développement des vaccins. Donc, rien n'empêche qu'ils puissent produire un autre vaccin qui est développé ailleurs.
Les informations erronées sur le vaccin COVID-19 se sont répandues dans toute l'Afrique, a ajouté M. Badiane. Les vaccins fabriqués en Afrique par les Africains pourraient donc contribuer à accroître la confiance et le nombre de personnes prêtes à se faire vacciner.
Pour plus d'informations, nous nous sommes entretenus avec le docteur Amadou Sall, PDG de l'Institut Pasteur de Dakar, et lui avons demandé des détails sur les efforts de développement de vaccins de l'Institut.
L'Institut Pasteur de Dakar est l'un des principaux instituts de recherche biomédicale et de santé publique en Afrique. Et depuis le début du Covid, nous avons été impliqués dans le renforcement des capacités, dans la fabrication et la recherche. Nous nous sommes formés au tout début dans 25 pays et nous nous assurons que ces 25 pays ont la capacité de faire des diagnostics. Il a été très utile d'établir une fondation dans tous les pays pour développer un réseau et pour aider les tests en général sous la direction de l'Union africaine, de l'OMS et de l'OAS. Nous avons également travaillé pour soutenir d'autres pays en matière de renforcement des capacités et aujourd'hui nous soutenons 13 pays différents dans le séquençage et nous veillons à ce que les différents variants en Afrique soient également caractérisés afin que nous puissions suivre les épidémies. Côté recherche, l'Institut Pasteur de Dakar s'est engagé dans des recherches visant à comprendre l'évolution du virus dans le temps. Nous travaillons en coordination avec d'autres pour résoudre le problème de la vaccination. L'Institut Pasteur de Dakar a ce projet de fabrication de vaccins appelé Madiba. Le but est de construire une plateforme pour s'assurer que nous pouvons livrer des vaccins pendant la pandémie et en même temps se préparer à fabriquer des vaccins dont nous aurons besoin à long terme en Afrique. Notre objectif et de pouvoir commencer à fabriquer des vaccins du début à la fin cette année et de nous assurer également que dans les 2 ou 3 prochaines années, nous serons en mesure de finaliser une plateforme où nous pourrons fabriquer de bout en bout non seulement des vaccins COVID, mais également d'autres vaccins pertinents pour notre programme élargi de vaccination et pour notre programme de vaccination des enfants. Quand on parle de technologie, l'Institut Pasteur de Dakar a été en mesure de construire une plateforme qui peut faire différentes technologies dont l'ARN messager. L'ARN messager est une technologie qui sera importante pour l'avenir et qui présentera de nombreux avantages pour les nouveaux vaccins et pour apporter de nouveaux vaccins en Afrique. Il a été l'une des cibles, c'est pourquoi nous avons cette collaboration en partenariat avec BioNTech. Mais nous poursuivons également d'autres technologies pour être en mesure de fournir des meilleurs vaccins, non seulement contre le Covid, mais aussi d'autres choses. Pour l'avenir, il est très important que nous nous préparions et que nous nous préparions maintenant parce que nous pouvons voir de la pandémie, c'est qu'elle peut avoir un impact énorme en termes d'économie, de développement, de capital humain et nous assurer que dans l'avenir, nous soyons prêts parce que pour moi, c'est très très important.
L'Afrique du Sud, le Sénégal, le Rwanda, l'Algérie et le Maroc, comme nous l'avons mentionné, ont rejoint le reste du monde dans la production de vaccins COVID. Si vous aviez le choix, préféreriez-vous prendre un vaccin COVID fabriqué en Afrique, en Europe, en Asie ou en Inde? Voici quelques réactions depuis Dakar et Johannesburg.
Oui, je ferais plus confiance à un vaccin produit par une entreprise africaine en Afrique, tout simplement parce que je pense qu'ils nous connaissent mieux, qu'ils sont sur le terrain et qu'ils sauront mieux trouver un vaccin adéquat en fonction de notre système immunitaire.
Oui, je ferais confiance à un vaccin produit par des Africains. Ça c'est clair.
La plupart des Africains, nous pensons que nous ne sommes pas assez raisonnables et nous ne nous faisons pas confiance. Donc je ne ferai pas confiance à un vaccin africain.
Je ferai confiance à un vaccin en Afrique ou même ailleurs, car c'est une pandémie, donc ça touche le monde entier. Alors quiconque a un vaccin approprié qui peut aider le système immunitaire à l'échelle humaine, oui, je ferai à 100% confiance.
Non, vacciner au pouvoir.
Non, je ne me suis pas encore fait vacciner. Oui, s'il y a un vaccin produit par des Africains, surtout par des Sénégalais, j'aurais plus confiance, car nous avons les experts ici. Mais si c'est un vaccin fait à l'étranger et si je n'ai pas confiance en leurs études, je ne pense pas que je me ferai vacciner.
Nous avons également réalisé un sondage sur Facebook pour savoir si vous feriez plus confiance à un vaccin fabriqué en Afrique qu'à un vaccin fabriqué à l'étranger. Dans la région des Grands Lacs, nous avons eu plus de 230 réactions. 60% disent qu'ils ne prendraient aucun vaccin du tout. 25% disent qu'ils prendront des vaccins fabriqués en Afrique. Et le Rwanda est leur premier choix, suivi de l'Afrique du Sud, du Sénégal, puis du Maroc. 10% disent qu'ils prendraient les vaccins fabriqués au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et 5% disent que cette initiative est purement commerciale. Le cerveau est la partie centrale du corps. Il est chargé, entre autres, de faire battre votre cœur, de votre respiration, ainsi que de vos mouvements. Les médecins conseillent de consommer les nutriments appropriés dont le cerveau a besoin pour rester en bonne santé et fonctionner au mieux. En voici quelques-uns. Les poissons gras comme le saumon et les sardines sont riches en acides gras oméga-3, essentiels à la mémoire. Les myrtilles fournissent des anthocyanes aux effets anti-inflammatoires et antioxydants qui peuvent retarder le vieillissement du cerveau et améliorer la mémoire. Le chocolat noir et la poudre de cacao contiennent des flavonoïdes qui, selon les chercheurs, pourraient stimuler à la fois la mémoire et l'humeur. Les noix contiennent une multitude de nutriments pouvant stimuler le cerveau, notamment de la vitamine E, des graisses saines et des composés végétaux. Les oranges et autres aliments riches en vitamine C peuvent aider à défendre votre cerveau contre les dommages causés par les radicaux libres. Et enfin, les œufs sont une source riche de plusieurs vitamines B et de choline importantes pour réguler l'humeur et favoriser le bon fonctionnement et le développement du cerveau. Le Covid-19 a apporté de nombreux changements dans notre mode de vie. Entre autres, beaucoup de personnes ont réduit les interactions physiques, professionnelles ou personnelles, ce qui a entraîné la prise de poids, le stress et des maladies. Une infirmière éthiopienne et entrepreneur en santé qui vit à Durban en Afrique du Sud a décidé d'y apporter un changement. Eden Guérémou a réalisé ce reportage que nous relate Guinée Kapumbu Villa.
Coach santé et bien-être, ainsi qu'entraîneur personnel certifié, Séblé Lema était infirmière. Alors qu'elle travaillait aux urgences, elle dit avoir vu tellement de gens souffrir de maladies qu'ils pourraient soigner avec de simples réajustements de leur mode de vie.
J'étais infirmière aux urgences, j'ai vu des familles payer tant d'argent pour des maladies qui auraient pu être évitées. Les gens n'ont pas besoin de payer beaucoup d'argent pour acheter des suppléments de médicaments ou pour aller au gymnase. Ils peuvent simplement ajuster leur mode de vie en consommant plus d'aliments à base de plantes et de produits faciles à trouver et en ajoutant des activités physiques faciles.
Voir tant de souffrances pendant la pandémie de Covid-19 a fait que Séblé se sentait déprimée et stressée. Pour lutter contre cela, elle a créé des programmes de formation disponibles en ligne et en présentiel.
Pendant le Covid-19, de nombreuses personnes travaillaient à domicile et souffraient de stress. Beaucoup prenaient du poids et faisaient face à la dépression. Quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il faut que je travaille plus sur la prévention.
Elle prépare également des boissons énergétiques biologiques à base de plantes, à base de betteraves, de gingembre et de concombres. La marque s'appelle Tenachine, signifiant notre santé dans la langue parlée dans son pays natal, l'amharique.
J'ai commencé à préparer moi-même du jus à base de betteraves, de gingembre et d'autres plantes et j'avais l'habitude d'en donner aux membres de ma famille. Au départ, ils étaient réticents, mais une fois qu'ils ont expérimenté le regain d'énergie et ses avantages, ils ont commencé à l'apprécier. Ensuite, j'ai commencé à partager la recette en ligne et à marketer le jus.
Madame Lema dit que les médias sociaux ont facilité la rencontre et l'aide de personnes du monde entier. Elle veut vraiment aider les jeunes à inspirer une génération en meilleure santé.
C'est ici que prend fin notre magazine Santé, votre avenir de cette semaine. Il était consacré à l'impact de la recherche biomédicale en Afrique sur la santé des populations. Nous avons interviewé le professeur Francine Ntoumi, biologiste moléculaire. Le professeur Ntoumi est aussi présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale à Brazzaville au Congo. Elle forme également des étudiants et des personnels en recherche biomédicale. Ensuite, vous avez suivi Carnet de santé présenté par Linor Moudou. Ce rendez-vous santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Tiro et de Nelson Lopez qui était à la console. Devant ce micro, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.